Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 144, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Marin de Saint-Exupéry. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Marin, c'est un costaud, un vrai. Je vous passe les détails, mais on pourrait dire Silk Road Mountain Race, Transcontinental Race, deux fois, record de l'épreuve sur la Hope Mill, etc., etc., etc. Pour info, vous avez certainement noté qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant deux semaines et pas de vidéo non plus. Eh bien, j'étais totalement débordé de travail avec la création d'un magazine, d'un trimestriel gravel. Donc rendez-vous dans les kiosques début mars. Et sans plus attendre, Marin de Saint-Exupéry. Ah ouais, quand un épisode commence et qu'on commence à se parler avec la phrase « Ouais, ça marche », là déjà, je sens qu'on va passer un sacré moment, tu vois.
Une nuit de folie.
Alors, s'il te plaît, tu modères un petit peu tes ambitions, ce n'est à peine. On s'est envoyé 4 mails, donc quand même, je suis un petit peu plus difficile que ça.
Non, non.
Mais bon.
Ça reste tout à fait professionnel. Très bien, merci.
Bon, on se fait un quart d'heure de blabla suisse ou est-ce qu'on attaque direct dans le gras, dans le dur ?
Ça, tout dépend ce que c'est que le gras et le dur, mais pourquoi pas, hein ?
Ouais. Bon, Marin, je vais te faire
une confidence. Je suis pas suisse, d'ailleurs. Je suis français.
Non, mais je sais. Voilà. Non, mais je sais. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et je me doute que t'as pas que des défauts non plus, mais bon, c'est pas la fin du monde. Marin, tu sais, habituellement, je prépare pas vraiment les épisodes, en fait. Et de temps en temps, je les prépare. Je me documente et tout, je cherche des trucs que je trouve, hein, d'ailleurs. Je cherche des trucs un petit peu gênants et j'en trouve. Mais ça, c'est pas tout le temps. Et avec toi, j'ai encore moins préparé. Donc, je me suis dit, écoute, Richard, tu vas pas t'embêter. Tu vas piquer les questions à quelqu'un d'autre. Donc, comme en ce moment, j'écoute beaucoup un podcast de Radio France qui s'appelle L'Embellie avec la sublime Eva Bester, je me suis dit que j'allais lui piquer ses questions. Donc, Marin de Saint-Exupéry, es-tu content d'être venu au monde ?
Oui, ça commence bien.
Tu l'avais pas vu venir celle-là. Hein ?
Non. Oui. Voilà.
Tu es plutôt
détails
satisfait ?
Bah ouais, plutôt satisfait. Et puis au bon endroit, au bon moment, je pense. Et puis voilà.
Pourquoi au bon endroit et au bon moment ?
Parce que la vie suit son cours et puis que voilà, je fais maintenant une chose qui me plaît et puis c'est parfait comme ça.
Donc tu es messenger à Lausanne.
Tu t'es quand même un petit peu renseigné du coup.
Non mais je mens très très bien, hein. Bon ça dure pas longtemps, hein. j'ai quand même du mal à montrer mon incompétence, mais non je me documente un tout petit peu quand même.
Ouais, je suis maintenant coursier à Lausanne et puis j'ai commencé à faire un petit peu de vélo de longue distance au moment où ça prenait un petit peu d'essor, donc bon moment, bon timing et puis, puis je suis à fond dedans maintenant parce que ça me plaît énormément et puis voilà.
Est-ce que je dois en déduire que les études de design industriel ne t'ont pas follement excité ?
Certaines choses m'ont follement excité, mais la perspective de passer du temps dans un bureau derrière un ordinateur à faire de la 3D m'intéressait moins. Ouais. C'était moins. Alors que
on en reparlera un petit peu, mais on en reparlera. Mais construire ton propre vélo et tes propres sacoches, ça visiblement, ça t'excitait bien.
Ouais, toute la partie atelier, c'était vraiment ce que j'aimais bien. Et du coup, j'ai passé mes 4 mois de diplôme dans les sous-sols de notre école, dans l'atelier, à faire ce vélo, à faire des sacoches, à faire plein de choses.
Est-ce que le vert est ta couleur favorite ?
J'ai pas de couleur favorite, je pense, mais le vert, ça fonctionne bien.
Ouais, parce que ton vélo est vert, tes sacoches sont vertes, ton sweatshirt est vert. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là.
Alors le sweatshirt,
c'est le hasard.
Hasard total, mais ouais. Mmh.
Parce que tu as aussi un petit côté écolo, quoi. Alors, là, je suis en train de me griller définitivement, parce que maintenant, quand je vais dire « ouais, je prépare pas et tout, je suis un branleur », les gens vont se dire « non, mais en fait, c'est vraiment un gros connard, parce qu'il prépare à mort et il le dit pas, il assume pas ». Mais Vert, est-ce que c'est pas un petit peu ton côté écolo, le genre qui te pousserait à faire Paris-Bishkek pour prendre le départ de la Silk Road ?
Bah ouais, alors oui, tu t'es bien renseigné. Ouais, c'était exactement pour le côté vert que je l'ai fait. Mais mon vélo n'était pas vert à ce moment-là. Bah, j'avais le mauvais drapeau.
Ah bon ? T'avais mis quel drapeau alors à ce moment-là ?
Non, bah, j'avais un vélo rouge et bleu. Du coup...
Un petit peu cocardier quand même, ça, monsieur, ouais. Hein, tout de même.
Alors, même, c'était pas voulu non plus, mais...
Bon, écoute, des fois, de toute façon, on n'a pas le choix. Le truc dans nos disciplines, c'est quand même de rouler avec ce qu'on a à un moment donné et c'est d'essayer d'en tirer le maximum. Mm. Question suivante, merci Eva Bester. Es-tu en bon terme avec toi-même ?
Bah, ça vaut mieux, ouais. Pour faire des courses comme ça, il vaut mieux bien s'entendre avec soi-même, ouais. Quand tu passes des 24 heures sur ton vélo tout seul, faut savoir t'occuper avec toi, ouais.
Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que tu as eu le bon truc dès le début ? Ou est-ce qu'il y a eu des moments d'apprentissage, peut-être sur les premières épreuves, genre sur la transcontinentale ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des petites...
Non, je pense que ça, je me suis bien trouvé là-dedans parce que justement, je fonctionne bien comme ça. J'avais même tendance avant de faire du vélo comme ça, à faire la même chose à pied, en autostop ou à voyager tout seul. Et puis, ça me va très bien.
Alors, question subsidiaire. D'où te vient ce goût du voyage ? Facile comme question, hein.
Bah, du coup, on va pas essayer de faire la réponse simple. pas forcément de la famille au sens très élargi du terme, mais peut-être de mes parents qui voyageaient beaucoup aussi. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais jeune, et puis du coup ça a continué, et puis ils m'ont laissé très libre, et puis ça me plaisait bien, donc j'ai accroché tout seul un petit peu avec leur blanc de seigle un petit peu. Ouais.
Bon alors. Marin, tu fais partie, excuse-moi pour l'expression, hein, tu fais partie de ces petits enfoirés de 25 ans qui débarquent dans une discipline notoirement réservée aux vieux et tu déglingues tout sur ton passage. Qu'est-ce que ça te fait ?
Alors, c'est bien un petit peu trop résumé, je dirais.
Alors, vas-y.
Bah,
déblatère, jeune homme, déblatère.
J'ai commencé plus jeune que 25 ans déjà, beaucoup plus jeune. Ça faisait des années que je fais ça. Je pense que j'ai commencé vers 18 ans. Et bah j'ai progressé. Enfin, j'ai commencé très très modestement et puis j'ai progressé jusqu'à ce que ça aille un petit peu plus vite l'année passée. Et donc, mais du coup, ça a pris du temps et puis j'ai appris comme tout le monde. Hein. Et puis voilà.
Pourquoi tu t'es mis au vélo spécifiquement ? Parce que moi, t'as fait de la marche à pied, t'as voyagé, ouais. Etc. D'accord. Mais qu'est-ce que le vélo t'a amené que tu ne trouvais pas dans la marche à pied, dans l'autostop, dans un voyage, une forme de voyage peut-être plus traditionnelle ?
J'ai commencé à faire du vélo avec la mode du pignon fixe. Et puis, je trouvais que c'était un super bel objet avant tout. Et avec cet avantage que c'est beaucoup plus compréhensible qu'une voiture, une paire de chaussures ou quoi que ce soit d'autre, c'est que tu peux te mettre à bricoler ton vélo toi-même dans ton coin. J'ai dû commencer vers 14-15 ans, je faisais n'importe quoi avec mon vélo. Je saignerais des yeux à voir ça maintenant. Je faisais des montages totalement alambiqués. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a plu. Je suis devenu un vrai geek de l'objet avant tout. Et puis, c'est quand j'ai bougé en Suisse vers mes 18 ans, que je me suis mis à faire du vélo pour le côté sportif, je dirais, aller faire des balades, etc. Mmh. Et puis voilà, du coup, avant tout pour l'objet du vélo, et puis après c'est venu pour le plaisir d'aller se balader en vélo.
Alors qu'est-ce qui t'a amené sur les longues distances, parce que t'aurais pu te contenter de faire le tour du lac?
Ouais.
À Lausanne.
Ouais, bon, le tour de lac n'est pas la sortie la plus belle d'ailleurs.
Non.
Malheureusement. Mais c'est souvent la première qu'on fait. J'ai dû faire aussi ça comme une de mes premières longues sorties.
C'est pratique pour faire 200 bornes sans trop se fouler, c'est quand même relativement facile.
Ouais. Bah, c'est ce qu'il y a de plus plat dans le coin. Du coup, j'ai oublié la question.
Moi aussi.
Merde.
Pourquoi les longues distances alors que tu aurais pu te contenter de faire la petite balade peinard donc autour du lac, hein, que ce soit celui de le lac Léman ou même de pousser un peu jusqu'à Neuch. Mm. Mais pourquoi t'être dit tiens, je vais pousser sur la longue distance, ça c'est mon truc.
Alors je crois, après je me souviens plus très bien, j'ai pas assez réfléchi à la question, je pense, mais je crois que ça, à la même période, je pense vers mes 17 ans, j'ai fait un voyage en autostop à travers l'Europe, jusque dans les Balkans. Et puis à la même période, je suis tombé sur ce film qui avait été fait sur la transcontinentale, Melon, Trucks and Angry Dogs, un super film en trois parties, qui m'a juste fait super envie. Et puis je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai fait la même chose en autostop. Et puis, faudrait le faire en vélo, quoi. Et ça me donnait super envie. Ce coup de planter la tente dans un fossé au milieu des Balkans, j'avais vu ce que c'était en autostop, et puis je me suis dit que en vélo ça serait encore plus chouette. Et bah du coup je m'y suis mis pour de bon, et puis j'ai d'abord très naïvement déposé une inscription pour la transcontinentale. J'étais bien content qu'elle ne soit pas reçue. Et ça m'a laissé un an de plus pour me préparer, un petit peu me roder. Et puis un an après, j'étais parti pour traverser l'Europe en vélo et refaire le trajet. C'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le trajet que j'avais déjà fait en autostop un an avant. Et j'avais fini en Croatie en traversant les Alpes. Et puis là, la transcontinentale finissait en Grèce, donc un petit peu plus loin. Mais aussi, tu as des checkpoints qui sont dans les Alpes, etc., avec un petit peu plus de zigzag.
Comment tu t'es préparé, justement, cette année avant la TCR? Comment tu as imaginé qu'on pouvait se préparer pour un truc comme ça, avec tes 17-18 ans, plein d'entrain et de naïveté?
Mal préparé, sans doute.
Ouais, mais ça...
Non. J'étais déjà assez geek pour tout ce qui est matériel, etc. Bon, il y avait plein de blogs, il y avait pas encore trop d'Instagram ou de sites comme bikepacking.com ou des choses dans le genre, mais il y avait plein de blogs que tu lis, tu regardes les groupes Facebook, etc. Et puis pour le vélo, je m'étais fait faire sur mesure parce qu'à l'époque, ça existait pas encore vraiment, un gravel, donc un vélo en acier, en gravel. Que je m'étais fait faire sur mesure, qui a été un super vélo, qui m'a servi pas mal d'années. Et puis je m'étais aussi fait une ou deux sacoches, je crois, et puis j'avais acheté, Apidura existait déjà, et puis j'avais acheté de leurs sacoches.
C'était quelle année ça, pardon?
Ça devait être, bonne question, 2017.
2017, ouais.
Pas sûr, mais un truc dans le genre.
Ouais.
Et puis ouais, pour le trajet, je fais un petit peu comme tout le monde, hein, avec des applications, des trucs dans le genre. Plein d'erreurs au début, mais ça fait partie du jeu. Et puis tu te retrouves sur un petit chemin en terre à minuit, et puis ça te fait marrer au final.
Ça fait des souvenirs, et on en parle 5 ans après, comme quoi c'était pas si terrible.
Ouais, je m'en souviens très bien de ce chemin.
Au final, ça a donné quoi alors, cette première TCR?
Ça a été bien. Je fais des petites erreurs qu'on fait facilement en découvrant les choses. Je pense que ma plus grosse erreur, ça a été en arrivant, je crois que c'était au Monténégro ou un des pays des Balkans, je me souviens plus. J'avais passé la journée à courir après la montre parce que je savais qu'il y avait un ferry à travers une rivière. Et puis j'avais noté en avance les horaires du ferry, il devait y en avoir 4-5 dans la journée, je me souviens plus exactement. Et puis du coup, je partais du checkpoint qui était le Transfăgărașaran, dans les montagnes roumaines. Et puis, je devais dégringoler jusqu'à ce fleuve, je ne me souviens plus du nom. J'avais peu de temps, et puis du coup, j'avais fait un contre-la-montre toute la journée pour arriver à l'horaire du ferry. J'avais plus d'eau depuis 2 heures, je fais la traversée juste à temps, tout va bien. Je sors du ferry, je vois un robinet, je remplis ma gourde, super content. Et puis, 3 heures après, l'eau ne passait pas, je vomissais tout ce qu'il y avait dans cette gourde parce que l'eau n'était pas potable de l'autre côté de la frontière. Et ça, j'étais mal renseigné pour ça. Je pense que c'est quelque chose où je ferai beaucoup plus attention auquel je fais plus attention maintenant. Et du coup, j'ai dû m'arrêter 24 heures dans un hôtel, totalement cloué au lit, à boire du coca, et puis ça allait mieux après. Et puis j'ai pu finir, j'ai juste fini, je pense, 2 heures avant la clôture officielle de la course. J'étais l'avant-dernier arrivé dans les délais impartis, donc c'était parfait. Et puis après, t'es en Grèce, tu peux te gaver de pâtisserie au miel, de tout ce qu'il y a de très bon en Grèce, donc ça marche parfaitement. Et puis après, c'est sympa l'arrivée parce que t'es dans une petite ville, là c'était les météores, et puis t'as plein de coureurs, tu bois des bières, tu passes la journée au bar, et voilà.
En 5 ans, ça veut dire que tu es passé de, disons, avant-dernier de la TCR à recordman de l'épreuve sur la Hunt 1000. Qu'est-ce que tu retiens de cette progression ? C'était Hope ?
Oui, je crois. Hope.
Ouais. Bon, en tout cas, il y avait 1000 km. Ça change pas. C'est déjà l'essentiel. Bravo pour leur sponsor. qu'est-ce que tu retiens de cette progression, somme toute assez logique et qui est pleine d'espoir ?
C'est logique, hein, parce que d'année en année, ça allait mieux, je me prenais plus au jeu, je faisais plus gaffe à ce que je faisais plus de kilomètres, et puis ça me plaisait de plus en plus, donc voilà, il n'y avait rien, enfin ça n'a pas été compliqué pour moi. Ce qui est cool, c'est que j'ai encore une bonne marge de progression, et donc je vais travailler pour, je vais faire ce qu'il faut pour que ça s'améliore, et puis voilà. Continuer à avoir du plaisir et m'amuser.
Vous avez compris, là, toutes celles et ceux qui écoutaient, il faut faire plus de kilomètres, il faut prendre du plaisir à vélo, et puis vous aussi, vous ferez le record d'une épreuve. Vous avez écouté Marin, voilà.
Donc, non.
Vous sautez dans vos petits cuissards, vous arrêtez d'écouter vos conneries sur YouTube et vous allez faire des kilomètres. Et dans 5 ans, on en reparle.
Non, je pense qu'il faut être un petit peu allumé aussi, enfin... Ouais, je saurais pas dire pourquoi ça marche bien, mais ça marche bien, tant mieux.
Parce que, bon, la TCR, d'accord, tu fais avant-dernier, d'ailleurs, ça n'a aucune importance, mais battre un record, ça veut dire que tu as roulé quand même un tempo assez soutenu, que tu as bien géré ton alimentation, que tu as su passer les passages techniques alors que visiblement le tout-terrain, c'est pas du tout ton truc, que tu n'as pas dormi ou quasiment pas. Quand même, ça fait beaucoup de choses à apprendre, ça se résume pas à rouler plus, à prendre du plaisir.
Ouais, après, sans
me moquer, j'ai l'impression de réentendre l'interview que j'avais fait avec Lyle Wilcox où elle me disait j'ai mangé un demi-sneakers, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Alors, non, moi je mange beaucoup de sneakers. Je mange beaucoup de sneakers d'ailleurs. Enfin, en général, je mange beaucoup. Il faut beaucoup manger, je pense, si j'ai du coup. Après, la Hope, j'étais pas vraiment parti, enfin, je savais pas qu'il y avait un record, etc. J'étais pas parti pour, comme ça. Et puis, c'est plutôt la dernière journée où là, je me suis dit, ça va bien, et puis, il faut y aller à fond. Et puis, du coup, là, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans cette optique où fallait pas s'arrêter, fallait finir le soir même. J'aurais pas de recette miracle, mais
manger des sneakers, donc
manger beaucoup, ouais. Je pense que c'est ce que je fais particulièrement bien, et de manière générale je mange pas mal, ouais.
Alors qu'est-ce que tu fais particulièrement mal sur les épreuves? Elle est où ta marge de progression? Si il y a un mois tu avais été au départ de l'Atlas Mountain Race, Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais essayé d'améliorer, mis à part ta technique de pilotage
Ça, exactement, la technique de pilotage. Je pense que j'ai une énorme marge de progression là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus et puis ça va déjà beaucoup mieux. Je pense que sur la hope, c'est forcément des a priori et puis que des estimations, mais je perdais 5 à 10 minutes par descente, donc c'est déjà beaucoup, enfin sur les descentes techniques. Et puis peut-être aussi plus que la technique, c'est aussi le fait de savoir lâcher les freins. Je suis pas un grand adepte de la vitesse en descente ou quoi que ce soit, donc ça se travaille aussi. Un petit peu travailler ses appréhensions. Mais après aussi, je pense qu'il y a... Jusqu'à l'année passée, je faisais surtout beaucoup de kilomètres. Et puis, je m'entraînais pas. Enfin, je faisais pas tout ce qui est intervalle, fractionné, etc. Et puis là, cette année, j'ai commencé. Je pense que là, il y a beaucoup à faire. Et puis, c'est clair et net qu'on progresse en faisant ça. Ça marchait avant sans le faire, donc voilà.
Mais le niveau a largement augmenté aussi en 2 ans.
Ouais.
Parce que ça, c'était l'année dernière et le niveau a carrément explosé. Et l'Atlas avait eu lieu, tu visais quel résultat?
D'aller au plus vite possible. Hein. Les 4 jours, je crois que ça se fait comme ça un petit peu. Et puis...
Tu peux le dire, hein, gagner.
Ouais, voilà. C'est assez moche comme mot au final.
Oh non, c'est beau comme mot.
Victoire. Comme tu veux.
Non, mais je m'en fous. Toi, c'est aller le plus vite possible. Aller
le plus vite possible. Et puis, je pense que je préférerais finir deuxième après bien m'être tiré la bourre avec quelqu'un. Enfin, par exemple, là, sur la roue, on se tirait la bourre avec Johan. Et puis, c'était vraiment super. Moi, j'avais beaucoup. Enfin, c'était beaucoup plus drôle comme ça. D'être tout seul et puis d'aller vite devant, c'est quand même moins drôle, je pense. Donc, c'est surtout d'avoir un petit challenge en plus. Et puis, là, d'aller vite, c'est vraiment sympa.
Donc, tu préfères finir seul devant ou finir deuxième battu par plus fort que toi?
Ça dépend vraiment du contexte. Je saurais pas répondre à cette question comme ça. Par exemple, sur la Hope, il y avait, je me souviens plus de son nom, il y avait un Allemand qui était devant nous pendant les 2 premiers jours, je crois. Et puis, 2-3 premiers jours, je sais plus. Et puis, il a été forcé d'abandonner à un moment. Et puis, moi, ça m'a presque déçu parce que il y avait plus ma carotte devant et puis il y avait presque, entre guillemets, plus de raison d'aller vite. Donc, je préfère clairement être poursuivant que poursuivi, je crois. Si ça peut déjà donner une réponse.
Et pourquoi tu as besoin absolument d'avoir quelqu'un devant toi?
Parce que c'est un jeu. C'est un jeu pour moi.
C'est une carotte.
Ouais, c'est comme n'importe quel jeu. C'est plus drôle quand il y a des gens avec qui jouer. Et tout seul.
Bon, si on parlait un petit peu de la Silk Road, qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul, pas partir tout seul, ça c'est pas le problème, mais de ne pas vouloir prendre l'avion pour aller à Bishkek, Kirghizistan.
Comme tu l'as dit, c'est pour des raisons écolo, etc. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un grand topo, mais pour pas prendre l'avion. Et puis là j'avais du temps et du coup je l'ai fait. Je me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça. Et au final, c'était génial parce que c'était un voyage de 2 mois pour le Kyrgyzstan. On n'en fait pas tous les jours. Et puis, du coup, je souhaite à personne de prendre l'avion si ça se passe comme ça, du coup. Et puis, c'est génial parce que ça montre aussi qu'il y a des alternatives au fait de prendre l'avion. Bon, là, c'est un petit peu extrême. C'est pas forcément nécessaire pour tout le monde.
À peine extrême.
Non, mais c'est juste que...
Avant vos vacances, avant de prendre vos 2 semaines de vacances annuelles, vous prenez 2 mois de congé sabbatique et puis vous y allez à vélo.
C'est que du coup, en 2 semaines, on peut traverser l'Europe, par exemple, ou faire des choses comme ça. Bon, c'est clair que Bishkek, c'est carrément plus loin. Et puis, ça nécessite d'avoir du temps. Et puis, j'avais ce luxe, donc je l'ai fait. Voilà.
Est-ce que c'est une conversation que tu as avec tes parents, justement, qui, eux, ont été et sont toujours de grands voyageurs et grands consommateurs d'avions, que toi, tu t'es interdit un vol qui ne changera rien,
Non.
Et est-ce que c'est un débat que tu as avec eux?
Je pense que ma mère est peut-être a été très compréhensive, bah, parce que avec le temps, enfin le sujet est bien sur la table, je pense, chez beaucoup de gens maintenant. Mon père s'est peut-être plus posé de questions, mais il comprend tout à fait. Enfin, et puis aussi, bah, y avait au final que l'idée de faire ce voyage, bah, c'est magnifique, et puis ça valait le coup rien que pour le voyage. Puis bah, au final, de pas prendre l'avion, ça sert à rien. Concrètement, ça va pas changer grand-chose. C'était presque, entre guillemets, une excuse. Mais c'était, voilà. Ça a été peut-être juste l'allumette qui a fait partir le truc.
Bon, c'est 8000, c'était 8000, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Si tu me racontais un petit peu ça.
Bah, ça se raconte difficilement.
En deux mots. Raconte-moi ça en deux mots. Voilà, très bien.
Bon, un petit peu plus que deux mots, du coup, rien que pour faire le trajet, du coup, j'ai pas mal aussi, ça faisait 8000 km, mais j'ai coupé en bateau aussi à deux reprises. Ouais. Je suis parti du coup de Suisse, de chez moi à Lausanne. J'étais jusqu'à Venise, où là j'ai pris le bateau, jusqu'en Grèce. Donc, ça fait une belle économie quand même d'économiser tous les Balkans que j'avais déjà traversé, que je connaissais grâce aux deux transcontinentales que j'ai faites. Là, je suis arrivé en Grèce, bah, je connaissais le paysage, du coup, vu que c'était tout proche de l'arrivée de transcontinental. Traverser la Grèce, arriver en Turquie. Traverser la Turquie, ça c'est vraiment, je pense, un des plus beaux pays à traverser en vélo, l'intérieur des terres en Turquie. J'avais fait un petit peu mon itinéraire n'importe comment, et du coup, j'allais un petit peu tout droit au milieu, mais ce qui est au final super chouette, parce que tu te retrouves dans des coins totalement perdus, où ils n'ont jamais vu de voyageurs à vélo, par exemple. Ça m'est arrivé à certains endroits. Traverser la Turquie, puis remonter un petit peu pour arriver en Géorgie. Le point culminant pour la gastronomie de ce voyage, je pense. Parce qu'il y a ça aussi qui est super chouette, c'est de découvrir toutes les gastronomies sur la route. Géorgie, Azerbaïdjan. Là, j'ai pris un bateau pour traverser la mer Caspienne. Et puis là, on arrive au. J'ai un petit trou de mémoire. Azerbaïdjan. Et puis en Ouzbékistan. Là, c'est le désert ouzbek, donc c'est tout plat. Mais malgré tout, c'était la grosse partie du voyage. Je ne m'étais pas trop renseigné, mais en plein été, le désert ouzbek, bah, il fait vraiment chaud. Enfin, c'est un désert, quoi. J'étais un petit peu la fleur au fusil. Je suis arrivé là-bas. J'ai débarqué du bateau et puis là, je me suis rendu compte que ça serait pas une mince affaire. Ouais, là, je pense qu'il y a bien 1500 km où tu es en plein désert, où au début, il y a des ravitaillements, etc. Mais après, il peut y avoir des bouts de 150 km où tu trouves difficilement de l'eau ou des choses dans le genre, où il fait peut-être jusqu'à 50 degrés au soleil, où tu as du vent de face, donc c'est assez dur, ça je le cacherai pas, c'était vraiment pas, enfin c'était une partie de plaisir, mais un petit peu un plaisir masochiste, disons, et puis bah, une fois que tu as traversé ce désert, là, tu retrouves les plaines de coton, un petit peu de civilisation, et puis tu arrives vite au sud du Kyrgyzstan, où tu dois traverser les montagnes pour arriver à Bishkek. Donc ça m'avait un petit peu acclimaté pour la course aussi. C'était pas mal. Et puis voilà, Bishkek, juste avant la course. Timing parfait.
Quelle a été la première phrase de Nelson quand il t'a vu débarquer à vélo?
Bonne question. Je pense qu'il m'a pas vu débarquer à vélo vu qu'il était entouré d'autres cyclistes. Donc je n'aurais pas de réponse.
Est-ce qu'il t'arrive de ne pas sourire?
Sans doute, le matin avant 10h du matin. Oui, mais c'est...
Quand même.
Ouais.
Et cette Silk Road alors, ça a donné quoi?
C'était chouette, c'était pas facile, pas évident, mais j'étais du coup assez bien préparé, je pense, en termes de kilomètres.
Est-ce que tu as pris des jours de repos, et si oui, combien entre l'arrivée à Bishkek et le départ de l'épreuve?
Alors, clairement pas assez, parce que je m'étais trompé dans mes calculs de kilomètres pour arriver à Bishkek. Donc, je suis arrivé un petit peu en retard sur mes prévisions. J'ai pris 4 jours, ce qui était assez court, parce que j'avais un petit peu de maintenance à faire sur le vélo, un petit peu du courir à droite à gauche pour me préparer. Et du coup, je pense que j'étais fatigué avant même de faire la course. Donc, à la fois bien préparé, mais à la fois pas au top de ma forme. Mais j'étais acclimaté un petit peu à l'altitude, vu que j'avais fait quelques nuits en altitude. J'avais acclimaté. Mon estomac était capable d'ingurgiter n'importe quoi, ce qui est très pratique pour cette course.
Ouais.
Je pouvais boire du lait de jument fermenté. Je pouvais manger du couroute, qui est cette sorte de fromage qui n'en est pas, mais qui est du lait de jument déshydraté, séché. Ils en font des petites boules qui ressemblent un petit peu à du fromage. Et ça, je pouvais en manger autant que je voulais, ce qui est très pratique pour les ravitaillements, vu que tu en trouves beaucoup avec des sneakers. Et puis sinon, voilà.
Ça a l'air presque trop facile pour être vrai. Je pense que Saint-Exupéry, je pense que tu mens. Je pense que tu as un petit moteur dans ton vélo.
Exactement.
Et que, en fait, tout ça a été fait avec une assistance mécanique illicite. Donc, je vais te voir te dénoncer aux autorités compétentes.
Parce non, que, en parlant de vélo,
avec le sourire. Non, mais franchement, c'est. Non, Marin, franchement, fais-nous rêver, donne-nous des détails où vraiment t'en as chié, tu vois, où tu t'es demandé ce que tu faisais là. Mais là, ça a l'air trop facile. Je suis arrivé, 4 jours de repos, j'étais cramé, je fais deuxième de la Silk Road.
Alors, je fais pas deuxième du tout. Mais...
Ah oui ?
Non.
Me serais-je mal renseigné ?
Oui, désolé.
Alors tu... Non, mais c'est pas grave, moi ça m'arrange. Hein.
Ouais, non, je crois que je fais 7e ou 9e, je sais plus trop.
Ouais, t'as raison, c'est vraiment nul comme résultat.
Je comprends, ouais.
Ouais, c'est
pour... Non, mais c'est, ça fait une bonne différence quand même. Une sacrée différence.
Franchement,
hein.
Ça fait une différence, mais franchement, ce qui compte, c'est quand même d'arriver au bout.
Oui. Non, pour revenir par rapport au, par exemple, alors j'avais pas de moteur dans le vélo, mais ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est des suspensions, des gros pneus.
Tiens donc.
Ouais, un vélo tout terrain, par exemple.
J'en connais un qui m'a dit ça l'été dernier.
Ouais.
Lui, il a gagné par contre. Il m'a dit, putain, avec une suspension, qu'est-ce que c'est bien dans les cailloux.
Ah oui, non.
Si j'avais eu ça à la Silk Road, ça m'aurait simplifié la vie.
Ouais.
Tu m'étonnes.
Et puis, tout simplement, un vélo tout terrain, là, j'étais avec un gravel en pneu relativement un petit peu trop fin, et puis en route 650, vu que je suis assez grand, c'est pas terrible les routes 650 pour moi. Enfin, ça faisait... J'avais pas le meilleur équipement, et puis ça, c'est, j'en ai un petit peu bavé pour ça. En frein à disque mécanique aussi, donc ça, c'est totalement à proscrire, je dirais, parce que j'ai mes... L'intérieur, pardon, de mes gaines qui ont gelé la nuit.
Ouais.
Vu qu'il y avait de l'humidité dedans et qu'il fait assez frais là-haut. Donc ça, je pense que l'équipement, j'en ai un petit peu bavé à cause de l'équipement. Sinon, le reste, y a eu plein de hauts et de bas. Hein. Forcément, t'en baves, mais c'est ça qui fait que c'est chouette aussi. C'est que comme ça, quand les moments où ça va vraiment bien et t'en profites pour de vrai. Quand t'arrives dans une yourte d'un checkpoint, il fait vraiment chaud, le thé est vraiment bon, et puis ce que tu manges, c'est la meilleure des nourritures au monde. Alors que c'est 3 biscuits secs, et puis un ragoût qui doit mariner depuis 4 jours dans la popote.
Est-ce que tu notes un petit décalage quand tu rentres à Lausanne et dans l'opulence suisse, si on peut parler d'opulence suisse?
On peut en parler.
J'ai travaillé 4 ans à Genève, donc j'ai vécu dedans aussi. Est-ce qu'il y a un petit décalage? Est-ce que ça te gonfle de rentrer à Genève? Qu'est-ce qui est le plus dur, partir ou revenir?
Les deux me vont très bien, parce que je suis très content de retrouver un petit confort, hein, aussi, on ne va pas se le cacher.
Ouais.
Ça a beau l'air de m'intéresser, de sortir de ma zone de confort, c'est d'autant plus appréciable un bon lit, de bien manger, etc. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'un lit est bon, c'est qu'à côté, c'est peut-être ce qu'est un mauvais lit, ou même l'absence d'un lit, encore plus parlant. Ouais, il n'y a rien de tel qu'un matelas après une course où tu es parti sans matelas. Parce qu'elle a n'importe quel matelas, c'est du 5 étoiles. Et puis, au bout d'un moment, tu sens aussi l'envie de partir parce que justement, tu es dans ton petit confort, t'as l'impression de tourner en rond et puis qu'il y a l'appel du large qui te prend, quoi.
Sur la deuxième TCR, ça a donné quoi ?
Donc ça, c'était un an avant que je parte au Kyrgyzstan. Donc là, on fait les choses à l'envers un petit peu. C'était aussi un an après la première, du coup. J'avais rempilé directement une année après. Ouais. J'avais appris plein de choses et puis j'étais un petit peu plus vite. Il faut savoir, là, du coup, tu en avais parlé au tout début, que je m'étais fait un vélo sur mesure, que vraiment jusqu'au bout du vélo, disons, jusqu'à la patte de dérailleur presque, je m'étais tout fait sur mesure pour faire cette transcontinentale. On pouvait difficilement avoir, en tout cas, j'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir de meilleur vélo à ce moment-là. Et puis ça a été super bien. Je connaissais un petit peu le parcours, enfin en tout cas les régions que j'allais traverser. Je connaissais. Ouais, ça allait bien. J'ai pas eu de soucis en particulier. C'est presque décevant quand t'as pas de soucis ou quoi que ce soit parce qu'il y a pas d'histoire après à raconter. Donc non, ça allait bien. Et puis il y avait pas grand chose d'autre à dire.
Sur la Hunt, tu avais un Merida semi-rigide, je crois, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Ouais. Ça marchait bien ?
C'était mon premier vélo tout-terrain, donc oui. J'ai pas de point de référence, et puis pour moi, c'est une machine de guerre, du coup, en tout-terrain, vu que j'avais l'habitude de faire du gravel, ou du tout-terrain avec un gravel, ou des choses dans le genre. Du coup, ça allait nickel, ouais. Après je me rends compte qu'il peut y avoir des améliorations après, mais non, je pense que j'aurais difficilement pu espérer mieux en tout cas à ce moment-là.
Quand tu m'as dit tout à l'heure sur la Silk Road, tu étais en 650, tu avais quelle section de pneus sur tes pneus de 600, tes roues de 650?
Alors à l'avant j'avais du 47 et à l'arrière du 42.
Pourquoi avoir fait ce choix d'une section différenciée?
Parce que derrière je pouvais pas mettre plus gros.
Pardon. Je cesserai de me moquer autant, mais oui, c'est pas de bol. Bah, en tout cas, quel courage, parce que la Silk Road en 42, il y a quelques jours, j'ai écrit à Nelson pour lui poser une question. C'était justement ça. Est-ce que tu donnes des indications à tes participants sur les sections de pneus ou des recommandations sur le type de vélo? Et il m'a dit, je leur dis d'éviter le gravel parce que c'est quand même vraiment pas assez gros. Et un vélo tout-terrain, enfin en tout cas un VTT typé XC sera bien plus judicieux. Mais en tout cas, bon, après on pourrait déblatérer des heures sur un gravel et les largeurs de pneus. On peut très bien prendre un gravel avec des pneus énormes. Mais en tout cas, à ce moment-là, 42, quel courage quand même. Ça devait bien secouer tout de même.
Ouais, après l'avantage aussi, c'est que pour le voyage, c'était idéal par contre. J'avais changé de pneus quand même entre les deux, hein, mais... Avoir un gravel pour le voyage, c'était super. Et du coup, pour combiner les deux, c'était peut-être le vélo parfait. Après, pour la course en soi, non. Mais ça a été aussi, enfin, ça se fait, avec quelques galères en plus. Mais ça se fait.
Au final, ça a fait quel résultat, la Silk Road, dans ces conditions ?
Quel résultat
Ah oui, non, tu fais 7e, pardon, tu me l'as dit tout à l'heure.
Ou 9e, je ne sais plus.
C'est anecdotique, ouais. Ce qui compte c'est ouais. Et là tu quand on a commencé à discuter en décembre ou janvier, d'ailleurs j'ai noté que j'avais été sur ta piste déjà il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi, et que en un an et demi tu es un petit peu plus sur les réseaux qu'avant. Avant de parler du Maroc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as un petit peu plus de présence en ligne alors que je te traque depuis quand même pas mal longtemps, et j'avais que des articles de presse, des trucs de ton école de design, mais tu n'avais pas de compte Insta, de trucs comme ça déjà à ce moment-là.
Il y en avait peut-être un. Après, c'est que j'avais des belles photos.
Ou avec un pseudo. Mais il n'y avait pas moult informations. Bon, il n'y en a pas beaucoup plus. Ouais. Mais tu n'avais pas une présence clairement affichée.
Ouais, après, bah, c'est que j'avais ces chouettes photos à mettre. Et du coup, je trouve ça. Oui. J'aime assez plutôt mettre des belles photos. Donc, tant qu'à faire, je les ai mises.
Oui, tu avais les photos de la Hunt, donc non, de la Hope, pardon.
La Hope, ouais. Et puis avant, j'avais eu une ou deux photos au Kyrgyzstan ou des choses dans le genre. Et puis du coup, je les mets quand j'ai des belles photos. Voilà, sinon,
donc, tu n'es pas le genre à documenter ta vie au quotidien, nous raconter ce que tu as mangé la veille
Non.
C'est pas trop ton délire, ça?
Non. Désolé, je te dirai pas ce que j'ai mangé hier.
Ah non, mais je m'en fous, j'ai pas envie de savoir. C'est, tu me dis oui ou non, mais après, moi, je juge pas la réponse. Tu me dis oui, bah écoute, vas-y, c'est super. Tu me dis non, et ben, c'est super aussi.
Non.
Avant de parler du Maroc,
il y a aussi un fait, c'est que, oui, auquel je pense juste maintenant, c'est que j'avais pas de smartphone aussi jusqu'à cet été, je crois. Et du coup, bah, ça change pas mal de choses pour, par exemple, Instagram ou des choses d'un genre. Je crois que j'avais un compte avant d'avoir un smartphone, mais tu regardes pas trop, du coup.
Bah oui.
Et puis voilà. Et puis, du coup, je m'en passais.
Question subsidiaire, pourquoi ne pas être équipé en smartphone? Considération écolo, encore une fois?
Du coup, j'en ai un, maintenant. Non, c'est que écolo ou je sais pas, non, j'en avais pas le besoin, tout simplement.
Ouais.
Et voilà. Un vieux téléphone.
Comment tu t'y... Eh ben, magnifique. Comment tu t'y es pris pour la conception de ton vélo? Parce que bon, ça reste quand même un métier, donc même si tu as étudié le design industriel tout en n'ayant pas la moindre idée de ce que ça veut dire, y a quand même une petite réflexion à avoir, non seulement sur les matériaux, ça c'est peut-être pas le plus difficile, mais en tout cas sur la construction géométrique de la chose.
Ouais.
Sur quelle base tu es parti, comment tu as étudié la chose pour te dire bah tiens, j'ai envie d'un vélo pour tel usage, alors je vais lui donner cette géométrie et j'aimerais qu'il ait ce comportement. Et comment tu as réussi à extrapoler de cette envie à cette réalisation concrète? Trois questions pour le prix d'une.
Ouais.
Bravo.
Alors ça faisait super longtemps, enfin ça faisait un certain temps que j'étais pas mal à fond à... Ouais, j'étais un geek du vélo, enfin je le suis toujours du ouais. coup, mais j'avais fait un an, même plus d'un an avant déjà, je m'étais fait faire un vélo sur mesure, du coup lui c'était le premier, il y avait des erreurs forcément, mais c'était déjà un bon, très bon vélo. Et puis je pense que dès le début je me suis intéressé, je crois que c'était dès le premier concours de machines des artisans en France. Des artisans qui fabriquent surtout en acier, je m'étais intéressé à ça parce que je trouvais que c'était juste des vélos magnifiques et puis que l'artisanat c'est super intéressant comme manière de faire. Et puis donc ça c'est plus comment je me suis intéressé, comment j'ai vraiment voulu faire les choses pour mon projet de diplôme. Donc l'idée c'était de faire un vélo qui serait selon mes idées le plus adapté pour faire la transcontinentale. Avant le diplôme, j'avais un mémoire à faire, donc ça c'était aussi un autre. Enfin, je pouvais choisir un autre sujet totalement libre. Et puis là, j'ai choisi de réfléchir autour du vélo artisanal et puis surtout en France du coup à l'époque. Puis j'ai été faire une sorte de mini tour des artisans en France. Donc, j'ai été voir quelques artisans, je leur ai posé plein de questions. Ils m'ont ouvert leurs portes, c'était super. Donc, j'ai fait ce petit tour, puis je me suis renseigné avec tous les livres, les sites internet que tu peux trouver. Il y a quand même énormément de choses sur internet. Et puis, à partir de ça, tu fais ta petite popote pour la géométrie, pour le choix des tubes, pour le choix des composants. Tu fais ta petite popote, c'est une recette de cuisine, hein. Y a rien de faux, y a rien de juste, c'est juste comment tu veux. Si t'aimes plus épicé, tu mets plus d'épices, puis tu fais les choses comme t'aimes. C'est pas universel, mais c'était la manière qui me convenait à ce moment-là, et puis là on a résulté.
Donc si tu devais résumer le comportement de ton vélo et ce que tu en attendais, ce que tu attendais de ce vélo à ce moment-là de ta vie pour la transcontinentale. Tu l'expliquerais comment?
Alors, déjà, j'avais pas assez, je pense, de recul, ou j'avais pas assez roulé de vélo différent pour vraiment pouvoir en juger. Après, bah, je connaissais la théorie de comment un vélo se comportait, enfin, la géométrie d'un vélo se comporte. Un vélo se comporte en fonction de sa géométrie, pardon. Donc, je connaissais la théorie, mais pour ressentir au niveau de la pratique, j'avais pas assez roulé de vélo. Ça, c'était clair. Et puis aussi, je pense que j'étais pas assez bon pilote pour pouvoir sentir les subtilités de géométrie différente ou quoi que ce soit. Et puis, il faut aussi... Enfin, maintenant, ce dont je suis convaincu aussi, c'est que le meilleur vélo qui nous correspond... Enfin, sur lequel on sentira le mieux, c'est aussi, bon, pas que, mais c'est aussi le vélo sur lequel on a fait le plus des kilomètres, on a passé le plus d'heures. On n'est jamais aussi à l'aise sur un vélo que si on l'a roulé depuis 3 mois. Et du coup, bah, à ce moment-là, ce vélo, il me paraissait parfait, puisque c'était le vélo que j'ai utilisé pendant 6 mois non-stop, je pense. Alors, pour la position, elle était assez juste, je pense. C'était une position qui était assez favorable pour se mettre dans les prolongateurs avec un vélo un petit peu court, un petit peu typé contre la montre presque, la position, hein, juste la position. Après, le reste du vélo, bah, c'était un angle de fourche un petit peu plus ouvert pour un petit peu avoir un vélo plus confortable. J'avais gardé des bases assez courtes pour que ça reste un vrai vélo de route. Mais après, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Enfin, c'était assez standard comme vélo de route endurance, quoi. Je n'avais rien fait d'extraordinaire non plus.
Et tu lui avais autorisé un passage de roue de combien? Justement, là, comme tu viens de le dire, ouais. Un vélo de route endurance.
Alors là, j'avais mis du 30 mm dessus. Je pouvais mettre du 32, je pense. Au moins à l'arrière, ouais. La fourche, je ne me souviens plus ce qu'elle a accepté. Mais du 30, ouais.
Et avec le recul, qu'est-ce que tu modifierais? Avec 2 ans de, même plus de quelques années de pratique, de recul, d'autres vélos, de perspectives diverses. Oui, j'ai un problème temporel. Et alors?
Non, c'est pas pour ça que je rigolais. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses.
Quasiment intégralement, ouais. y compris la peinture.
Non, alors il y a plein de choses. Bon, il y a une grosse chose que je modifierais, c'est que je m'entraînerais à faire des vélos avant.
Ouais.
Parce que ça, c'est un métier, c'est pas pour rien. Moi, c'était le premier que je faisais dans le rush d'une période de diplôme qui, en général, t'as le temps de rien faire, du coup. Ouais. Je l'avais fait totalement. En plus, je travaillais à côté déjà comme coursier, donc c'était totalement n'importe quoi. Enfin, je le faisais le soir, je le faisais n'importe comment. Et puis, je savais, pour ainsi dire, pas souder. Enfin, là, c'était de la soudo-brasure, mais ce qui est petit peu plus abordable déjà, mais je ne savais pas faire. Mais j'apprendrai tout ça, quoi. Et puis j'aurai peut-être des meilleurs outils. Là, le vélo n'était pas du tout droit, hein, du coup. Il n'était pas du tout droit. Je pense que j'ai surchauffé toutes les soudures, ce qui faisait qu'il était beaucoup plus mou qu'un vélo fait dans les règles de l'art. Il y avait les pattes que j'avais fait moi-même. J'avais fait tout plein de choses. J'avais découpé une pièce à la laser, par exemple, et puis ça avait été découpé dans de l'acier totalement bas de gamme, donc elles étaient totalement pas rigides, je pouvais presque les tordre à la main, presque, si je prenais une barre de fer pour m'aider, disons. Donc le vélo était super mou. Donc il avait... Les plans, je dirais, étaient très satisfaisants, la fabrication ne l'était pas. Ce qui fait déjà une bonne différence. Après les plans, forcément, il y a plein de choses qui évolueraient. Mais je pense qu'aussi un gros truc que je changerais, c'est que maintenant, après, je pense que l'acier, ça, c'est intéressant pour beaucoup de gens, les vélos en acier, parce que ça permet plein de choses au niveau du confort et même c'est super solide, ça se recycle, enfin il y a plein d'avantages à l'acier. Mais quand tu commences à rouler un petit peu plus fort, il y a peut-être des limites aussi à l'acier. C'est que maintenant, je pense que je peux accepter de rouler sur des vélos moins confortables. Mon corps, il est OK avec ça. des vélos beaucoup plus rigides et puis qui me le rendront en termes de rigidité. Donc c'est quand même pas mal quand tu veux aller vite. C'est un petit atout. C'est un petit peu plus léger aussi. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose que tu regardes au final. le vélo que j'ai fait, c'était sans doute un super vélo pour faire la transcontinentale, mais pas le seul. Et puis voilà.
C'était le bon moment, donc à ce moment-là de ta vie, mais peut-être que la recette était un petit peu trop cuite quand même.
Je pense que j'aurais toujours beaucoup de plaisir à le faire sur un vélo comme ça s'il était mieux fait.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il était trop cuit, parce qu'il y a eu quelques petites errances de réalisation sur la soudure, mais c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça, ouais.
Non, et puis il y a plein de choses qu'il faudrait revoir, hein, forcément, des petits détails. Mais bon, ça c'est.
Question bête, c'est quoi la soudobrasure ?
La soudobrasure, ce n'est pas une soudure. Pour caricaturer, ça serait un petit peu presque comme coller des tubes en acier. C'est quand tu ne chauffes pas quand tu ne chauffes pas le métal d'apport avec lequel tu vas joindre tes tubes à la même température que l'acier, mais tu chauffes beaucoup moins. Et puis du coup, ça fait un cordon souvent en bronze ou en cuivre, enfin un mélange. Ça fait un cordon qui est un petit peu plus gros qu'une soudure TIG, qui ça est une soudure qui va où tu arrives au point de fusion de l'acier ou du métal en général. Donc ce n'est pas une soudure, c'est une sorte de collage et puis tu le fais au chalumeau. Tu chauffes, je dis peut-être une erreur, mais tu chauffes, je crois, à 800 degrés, quelque chose dans le genre. C'est sans doute une erreur parce que ça fait longtemps que je n'ai pas révisé tout ça.
Je laisse celles et ceux qui vont écouter le soin de nous corriger là-dessus, enfin en tout cas te corriger, parce que moi je suis parfaitement incompétent en matière de soudure et d'acier, ce qui me permet de faire la transition. Te sens-tu prêt maintenant, hormis ton Mérida, à rouler sur du carbone ? Parce que tu me dis l'acier c'est bien en termes de rendement et tout jusqu'à un certain niveau, c'est bien pour le confort. Bon, mis à part le côté recyclage où là je suis parfaitement d'accord avec toi, le carbone ne se recycle pas. Mais par contre, on peut quand même énormément jouer sur la souplesse et en tout cas sur le confort avec le carbone. On peut les rendre rigides à l'excès. Et justement, il y a plein d'autres disciplines sportives qui utilisent le carbone et qui utilisent les propriétés flexibles du carbone. Carbone ne veut pas dire inflexible.
Oui. Ouais, c'était peut-être le cas il y a une dizaine, vingtaine d'années, mais là, c'est plus le cas.
Carrément, ouais. Les premiers cadres, c'est... Ouais. Les tout premiers cadres, c'était l'horreur, parce que tu ne voyais pas la différence avec un alu ou avec un acier, et après, ça a été l'excès inverse. Et au contraire, je pense que maintenant, on me l'a dit, et tout cela émanant de fabricants, que vraiment, on fait ce qu'on veut. Donc, d'où ma question, te sens-tu prêt à rouler maintenant sur du carbone ?
Oui, oui, clairement. Après, pas n'importe lequel, et puis j'aurais toujours beaucoup de plaisir à rouler sur un acier, ça dépend vraiment du vélo.
Est-ce que tu commences à t'intéresser un petit peu à la conception d'un vélo en carbone ? L'acier reste vraiment le truc un petit peu accessible ? Comme tu l'as dit, il faut un chalumeau, je caricature, mais un chalumeau, deux tubes et c'est parti. Alors que le carbone, c'est un poil plus compliqué probablement, en toute incompétence encore une fois. Mais du coup, non, ça ne t'intéresse pas ?
Pas dans l'immédiat, non. Et puis, oui, c'est clair que c'était la beauté un petit peu de l'acier, c'est que tu peux le faire dans ton garage et puis même de manière générale, on voit que c'est un petit peu les seules entreprises, par exemple, qui font des vélos en Europe, en France. Forcément, il y en a qui se font en carbone, mais la grande majorité, c'est fait en acier. Et c'est pour la simple et bonne raison qu'on a les compétences beaucoup plus facilement, et au moins de le faire au niveau artisanal. C'est beaucoup plus abordable. Et même au niveau de la conception, c'est beaucoup plus facile. Hein. Faire un moule carbone, je ne saurais pas faire. Je n'aurais pas la prétention. Et puis, c'est aussi peut-être beaucoup plus complexe. Je pense que forcément, il y a des gens qui doivent arriver à faire un vélo en carbone tout seul dans leur garage parce qu'ils sont très forts. Mais même comme ça, j'imagine, j'ai des doutes. Après, je ne connais pas bien, mais que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat au même résultat que des industriels qui vont travailler des années et puis qui sont une équipe, qui sont des ingénieurs, des designers, qui sont beaucoup des chercheurs, etc.
Ouais, qui vont développer quelque chose. C'est rodé depuis des années leur affaire. De toute façon, ils sont pas si nombreux que ça sur le marché, globalement, des usines vraiment à bloc carbone qui produisent, je crois que c'est deux usines dans le monde qui produisent 80% des carbones mondiaux.
Deux fabricants. Donc,
Giant et Mérida.
Ouais. Donc, je sais pas si c'est des usines, je pense que j'espère qu'il y en a quand même plus que deux.
En tout cas, oui, enfin, je veux dire deux fabricants. Oui, pardon, ouais, là tu as entièrement raison. Deux fabricants, ouais, et c'est vraiment eux deux, tu vois, qui ont tout. Et c'est c'est sûr que c'est rodé, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu lâches un petit peu malgré tout ce que tu as fait dans tes études pour en ce moment te consacrer vraiment à ton job de messenger, de messager à Lausanne?
Oui.
T'as fait ça un peu par dépit, un petit peu? Ou
le métier de coursier à vélo?
Le design.
Non, ça m'intéressait. Et puis, non, c'était super que je le fasse parce que, à 18 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie, hein, tout simplement, sinon. Et donc là, ça m'a apporté plein d'outils. Après, je travaillerai peut-être jamais en tant que designer à proprement parler, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Court moyen terme, mais à côté, ça me permet de, enfin, en ce moment là, je travaille beaucoup comme coursier, mais surtout je travaille 2 jours par semaine comme coursier, puis le reste du temps maintenant je me mets un petit peu plus sérieusement au vélo. Depuis cet été là, j'ai un petit peu de voir où est-ce que je peux pousser les choses si j'y passe un petit peu plus de temps. Et du coup, je me consacre un petit peu plus à me préparer pour des courses de longue distance.
Bon, jusque-là, on peut pas dire, enfin, ne le prends pas mal, pour l'instant, on peut pas dire que ce soit un succès, puisque les courses ont été annulées. Donc,
c'est pas annulé, reporté, mais même si c'est la deuxième fois. Mais...
Oui, enfin, n'empêche que bon, entre fin janvier et début octobre, bon, désolé, ça fait quand même une longue période d'attente pour la même course.
Ouais.
Donc là, dans l'immédiat, c'est quand même comme si c'était annulé. Donc quand on a commencé à discuter, tu m'as dit je pars au Maroc, etc. Et comme par hasard, ça tombait sur les périodes de l'Atlas, et je t'avais pas posé la question, mais ça semblait évident que tu allais être au départ de l'Atlas. Est-ce que tu allais être au départ de l'Atlas?
Ouais.
Ouais.
Ouais, je prévoyais d'y aller du coup en vélo aussi là-bas. C'est beaucoup plus accessible que le Kyrgyzstan. C'est pas mal.
Tu m'étonnes.
Surtout qu'on peut prendre le bateau à Marseille et puis arriver à côté de Tanger, je crois. Donc c'est super vite fait.
Ouais.
Enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, ça prend quand même une quarantaine d'heures de traversée. Après, il faut arriver à Marrakech, mais c'est quand même beaucoup plus proche. Et puis...
Beaucoup plus facile, oui.
Ouais.
C'est bête, mais tu vois, en termes culturels, c'est quand même toujours plus proche de nous. Il y a moins un décalage culturel, alimentaire, etc., qu'avec le fin fond de l'Azerbaïdjan.
Oui. Il y a moins à roder son estomac, je pense, pour être prêt à manger la nourriture aussi.
Ouais. Et du coup, comment tu réavises un petit peu ton plan? Comment tu modifies légèrement ton plan? Justement pour voir jusqu'où tu peux aller.
Du coup c'est cool parce que ça me laisse plus de temps. Je vais faire d'autres choses en attendant et puis ça ira très bien, quoi.
Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces autres trucs attendant? Ou est-ce qu'il faut vraiment te tirer les vers du nez à chaque fois?
Non, mais on va pas conjurer le sort avec le Covid, etc.
Monsieur est superstitieux. Alors là, on aura tout vu. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu vas contacter Yventure sur Facebook, tu vas aller à Desertus Baïcus, et puis voilà, c'est dans 3 mois. Tranquille, 2 mois et demi.
Ouais, je crois que j'ai quelque chose à cette date-là. Si ça a lieu.
Ah bon? Bon, allez, dis-moi en plus. Mais de toute façon, t'inquiète, ça va avoir lieu.
C'est aussi la beauté de ça, c'est qu'on voit une semaine avant qu'il y a d'autres, et puis c'est assez drôle, moi, je trouve. J'aime bien garder ce petit truc. De découvrir la liste une semaine avant, je trouve ça assez. C'est chouette.
Donc, en fait, tu veux garder le secret sur ce truc?
C'est pas secret, il y a plein de gens qui le savent, mais...
Ouais, mais moi, je le sais pas.
Bah voilà, désolé.
Bah voilà, donc
ça sera en temps voulu.
Je suis un petit peu déçu, quand même.
Ouais. Non, et puis, il faut que ça ait lieu. Hein. C'est une course qui a déjà été reportée plein de fois. Enfin, tout mon programme, ce n'est que des reports.
Toi, tu te bases sur les courses qui ont déjà été annulées pour miser sur la probabilité statistique qu'elles soient à nouveau reportées, que tu ne sois pas au départ.
Exactement. Mais du coup, je pourrais être Desertus Baicus, peut-être, si c'est
Peut-être. Allez, dis-le-moi. Oh, quand même. Tu vas pas nous laisser seuls comme ça, là, dans les spectatives. C'est qu'une course en plus, hein, c'est
Ouais,
pas.
bah oui. Non, du coup, allez, on va faire la moitié. Je serai en Italie en avril pour l'Italie
Ah!
Divide.
Ouais, Italy Divide, superbe.
Ça devrait avoir lieu, je pense, parce que ça fait 2 ans, 2 fois que ça a été reporté, en tout cas. Pas 2 ans, mais 2 fois.
Et tu vas retrouver Nelson en plus sur place.
Ok, ouais, c'est chouette.
Ouais, ça c'est cool. C'est ce qu'il prépare là.
Ok.
Il s'est remis au vélo, il est content, donc il roule. Je crois qu'il roule comme un dégénéré. Et il m'avait dit, ouais, je viens en France et tout. Après, je fais l'Italy Divide. Il est prêt, Nelson. Ça va
Ok,
chier.
oh, parfait.
Attention. Ouais, c'est cool. Non, c'est cool, tu vois,
Ça va
de
être chouette de se
même.
tirer la bourre alors.
Non seulement, mais aussi de se revoir dans un contexte différent, peut-être de rencontrer une autre facette que Nelson organisateur, mais de rencontrer Nelson coureur. Ça peut être super intéressant aussi, rien que pour ça. De se voir
J'imagine
dans un
que
contexte différent,
Nelson
c'est cool.
organisateur et Nelson coureur doivent être assez proches parce que c'est quand même une course, hein, d'organiser. Enfin, organiser une course, tu dois courir pas mal. Je pense qu'il dormait pas beaucoup plus que s'il faisait vraiment la course.
Peut-être,
Il
peut-être. Bah écoute.
était tout autant content de fêter à la fin que s'il avait fait la course, je pense.
Ouais. T'avais prévu quoi au Maroc à part l'Atlas?
Oh bah juste de faire un petit voyage. Du coup, bah quand même l'aller-retour depuis Tanger, il y avait quand même 1 000 km.
Ouais.
Tanger-Marrakech, c'est déjà suffisant en soi, l'aller-retour.
C'était juste ça en fait. T'avais pas prévu de faire une petite boucle ailleurs dans le pays en plus de la course, avant ou après?
Je te sens déçu.
Non.
Il fallait que je fasse
Factuel.
8 000 km pour y aller, que je fasse le tour de la Méditerranée, que je...
Factuellement, je me contente de la réponse qu'on me donne.
Ouais, bah voilà.
En faux journaliste que je suis, je me contente d'une réponse factuelle.
Elle est toute simple, juste l'aller-retour, et puis voilà.
Juste l'aller-retour, la course, et voilà.
Ouais. Bon, ça prend déjà, c'était déjà presque un mois de voyage, hein. Des fois, ça
Jusqu'où
suffit.
tu penses pouvoir aller dans l'ultra quand on voit les performances de Sofiane, de Ulrich, là ce qu'est en train de réaliser Omar. Ça veut dire quoi, voir jusqu'où je peux aller? Ça veut dire que non
Bah bonne
seulement déjà tu
question.
veux essayer de les battre?
Bah bonne question. On va faire ouais. Puis c'est aussi, je pense, en optimisant un petit peu tout l'entraînement, etc. Tout simplement le matériel ou des choses dans le genre. Je pense qu'il y a énormément de progression à faire de mon côté. Et puis ouais. Moi, ce qui m'a toujours fait rêver dès que j'ai commencé, même si ça c'était pas du tout le but. De leur arriver à la cheville ou quoi que ce soit, c'était les performances de Christophe Halgert ou Mike Hall dès le début. Enfin, c'est ce qui m'a scotché sur ce sport. C'est les gars, tu pars te coucher le soir, tu te réveilles le matin, tu regardes le tracker, tu vois qu'il a traversé un pays dans la nuit. C'était assez incroyable, ça me faisait rêver sans du tout avoir l'idée de faire la même chose. Et puis du coup, bah maintenant j'en ai peut-être la capacité et puis de voir jusqu'où je peux aller, ouais.
Pourquoi tu fais tout ça?
Oh, il faut pas chercher une raison, c'est totalement gratuit.
Non, c'est jamais gratuit. Se mettre des jours et des jours sans dormir, à rouler, à avoir mal au cul et à bouffer des sneakers, on ne peut pas se mettre dans un état de telle détresse et de telle limite survie pour rien.
Parce que j'ai du plaisir à le faire, je pense, aussi simplement que ça, hein. C'est purement égoïste avant tout. Ouais. Parce qu'à un moment, ouais, enfin, ça marche par vague, hein. Ça marche t'as des vagues où ça va pas du tout. T'es complètement au fond de la vague, dans le creux. Là, tu te demandes vraiment pourquoi tu fais tout ça. Tu trouves pas forcément les questions, ou en tout cas, tu trouves que des réponses négatives qui te disent que tu ne devrais pas être là, que tu n'as plus qu'à te coucher dans le fossé et puis tout ira mieux. Et puis il y a d'autres moments où au contraire c'est euphorisant, c'est de l'adrénaline ou je sais pas quoi, c'est comme une drogue, hein. Enfin t'es totalement high, totalement perché sur un nuage, et puis là c'est vraiment agréable. Puis t'as l'impression que tu roules facile, que tout va bien. Ouais, c'est le pays des merveilles, quoi. Mais bon, pour en arriver là, il faut être tout en bas. Mais enfin, il y a aussi la réflexion que je me suis faite, c'est comme boire de l'alcool, sauf que boire de l'alcool, d'abord, t'es bien, et après, le lendemain, t'es pas bien. Et pourquoi tu recommences alors que tu sais que le lendemain, ça ira pas. Il n'y a pas de réponse claire et nette, c'est juste un plaisir comme un autre. Peut-être un petit peu plus extrême.
Ouais, parce que là, tu viens quand même de donner le parallèle avec une addiction. Quand on en est à ce niveau de réflexion, c'est qu'on est un petit peu dans une addiction, il peut y avoir une réponse quand même. Donc, boire un coup, un petit peu trop, et être mal le lendemain, bon, très bien, pourquoi pas. Mais recommencer, augmenter les doses pour retrouver ce niveau de haïtude, si on peut dire.
Alors, je pense que le sentiment, le coup des vagues et puis d'alterner entre états, etc., ça tue. Enfin, là, j'ai pas l'impression d'augmenter ça. Après, j'ai d'autres plaisirs qui sont de découvrir ce que c'est que l'entraînement, c'est d'être satisfait de ce que tu fais au quotidien, c'est de voir une progression, de travailler pour quelque chose auquel tu crois, etc. Ça, c'est très satisfaisant aussi. Et puis, ça, c'est pas. Je ne rangerai pas le registre des addictions, ça c'est pendant la course même où t'as des sensations assez agréables. Après au quotidien, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant de se pencher un petit peu plus sur les détails et puis de travailler ça.
En ce moment, ton entraînement, ça ressemble à quoi, sachant que sur les alentours de Lausanne, c'est quand même pas la joie. Aujourd'hui, il neigeait, d'après mes informations.
Pendant cette interview, je ne suis pas en Suisse, donc je n'ai pas vu de neige. Je suis en France, en Bourgogne. Mais plus généralement, depuis cet automne, je travaille avec un entraîneur, donc ça change aussi pas mal l'entraînement. Ça ressemble à quoi au quotidien? C'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, les intervalles, des longues sorties. Tu fais comme ça, c'est assez répétitif. Ça peut paraître peu amusant dans la répétition ou des choses dans le genre, mais quand t'aimes faire du vélo, ça reste un très chouette processus. Et puis, même s'il neige, hein, en Suisse, tu peux faire du vélo. Il y a même des cols qui sont ouverts toute l'année, ce qui est super. Ouais. Tu peux aller faire des cols à 1500 mètres sans problème, il n'y a pas de souci.
Puis le Morvan est quand même aussi une belle région pour aller faire du vélo, c'est très délicieusement vallonné.
Oui, bien renseigné, ouais, le Morvan. Et pour le VTT, c'est génial.
Mais tu sais quoi, je pense que tes parents et moi, on a des amis en commun, donc c'est ça qui est encore plus drôle en fait.
Ok.
Donc, j'ai pas eu à me renseigner beaucoup, mais de toute façon. Mais par contre, pour Lausanne, j'ai eu un des gars que j'entraîne qui est à Lausanne. Et du coup, ouais, j'ai eu les infos aujourd'hui. Est-ce que le côté répétitif t'a un petit peu surpris ou lassé au début, dans le sens où toi, tu viens d'une pratique finalement totalement basée sur le plaisir de faire du vélo, un plaisir un peu enfantin de faire du vélo. Et là, tu passes à une pratique un petit peu plus structurée, un petit peu plus répétitive. Disons même un petit peu plus chiante parfois. Est-ce que ça t'a surpris ou est-ce qu'au contraire tu trouves une source de plaisir là-dedans, s'il peut y en avoir une?
Forcément je m'y attendais un petit peu, hein. Je m'étais renseigné avant de faire les choses quand même. Ça me va bien, je pense, de par rapport à comment je fonctionne. Ça me dérange pas comme ça, et puis surtout il y a toujours des périodes comme ça assez répétitives, et puis il y en a d'autres où je sais que je vais aller voyager ou je vais faire d'autres choses, et puis ça m'ira très bien, et puis là ça va me faire même plaisir de quitter cette routine. Et puis je pense que l'alternance routine et puis moment un petit peu plus exceptionnel comme un voyage ou quoi que ce soit, c'est au contraire, ça me convient très très bien.
ta progression, tu la vois, s'il y a une progression, et j'espère que oui, je suppose, tu la vois à quel niveau maintenant, ta progression sur un vélo?
Bon, y a forcément des choses très bêtes comme les chiffres, hein, les watts, tout simplement. Puis ça ment pas. Ou en tout cas, ça, c'est, mais bien que ça soit qu'un facteur, après, bah, tout simplement en technique, en VTT, je ne savais pas faire de VTT. Pas forcément que je sache en faire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une nette différence.
Ouais.
Donc, c'est clair que ça fait des différences. Et puis, ouais. C'est plein de petits détails. Alors, c'est au début, quand tu commences à t'entraîner, tu vois forcément assez vite de la progression. Et puis après, bah, j'imagine que ça va commencer à stagner gentiment au bout d'un moment et puis que ça va être de plus en plus difficile de progresser. Et puis que ça va.
Sur les watts, tu en es où?
Bah, j'ai pas, moi je n'ai pas, j'ai juste fait des tests de manière sporadique, j'ai pas de capteur de puissance.
T'as pas de capteur, ouais.
Ouais. Et puis bon, pas ça veut pas dire grand chose, hein. Au point où j'en suis, je pense que ça veut pas dire grand chose. On en reparle dans 6 mois peut-être, mais quand tu t'entraînes que depuis quelques mois, c'est pas.
Bah, si, justement, ça donne un point de repère.
Parce bon, que c'est le point de départ, mais c'est.
Ça donne une progression, justement. Ouais. Donc, oui. C'est toujours intéressant de savoir d'où tu pars pour apprécier là où tu es arrivé.
Ouais.
Donc, mon petit marin, eh ben, moi, je vais aller dormir.
Bah oui, c'est gentiment l'heure.
C'est pas
l'heure.
Le tout, parce que c'est gentiment l'heure. Demain, bah non, demain, je roule pas. Donc, c'est très bien. Donc, non, demain après-midi, je fais la sieste. Donc, ça, c'est cool, ça me plaît bien. Je vais te laisser pour la minute de solitude parce que ça, autant le début, j'ai tout piqué à Eva Bester, mais la minute de solitude, je l'ai piqué à une autre journaliste dont le nom m'échappe totalement. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais couper mon micro, couper ma caméra. Je te laisse tel quel. Tu dis ce que tu veux. Ça dure le temps que ça dure, mais tu fais ce que tu veux. Quand t'en as marre, tu te barres. Tu laisses ton navigateur ouvert. Comme ça, moi, pendant ce temps-là, je peux couper l'enregistrement, rapatrier les fichiers ici. Et voilà, tout simplement. En attendant, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur une... Bon, les chances sont très faibles, mais en tout cas, qu'on ait l'occasion de se croiser sur une épreuve cette année. Et voilà.
Bah, merci à toi. Ouais. J'espère avoir pas dit trop de bêtises ou quoi que ce soit.
Puis, non.
Dans l'immédiat,
même si t'en avais dit, bah c'est pas grave.
On fera avec.
On en meurt pas à chaque fois, donc c'est pas la fin du monde.
Hein? Merci beaucoup. Ouais. Et puis, merci du coup, moi aussi, je m'étais renseigné, et puis du coup, j'ai un petit peu préparé ça. Enfin.
Est-ce que ah non, c'est vrai.
Bah, j'avais au moins regardé quelques-uns de tes épisodes pour voir
à quelle sauce j'allais manger. Ouais, est-ce que tu t'imaginais est-ce que tu avais anticipé le coup de Eva Bester?
Peut-être pas non, quand même. Hein. Non, pas non, du
mais
tout.
C'est normal, c'est la première fois que je le sors parce que j'avais écouté un super épisode avec elle, avec je crois l'ancien directeur des sports de Canal+, un truc comme ça. Et puis, il y a 2 semaines, avec Alexandre Astier, puis aujourd'hui, j'ai découvert que le dernier est avec Bruno Patino et ça a l'air hyper intéressant. Donc, du coup, je vais aller écouter ça, parce que non seulement elle a un timbre de voix qui me plaît beaucoup, elle est super intelligente et elle pose des questions pertinentes. Donc, toutes les qualités qui me font cruellement défaut. Donc, je vais m'en inspirer très largement à l'avenir. Voilà.
Là, tu m'avais un petit peu pris au dépourvu là-dessus. Mais du coup,
ouais, mais c'était un petit peu le but quand même. Hein. C'était un petit peu le but. Mais tu vois, là où franchement, il y a des fois, c'est un petit peu énervant, c'est que elle envoie les questions en fait à ses invités avant pour qu'ils aient le temps d'y réfléchir un petit peu. Et c'est là où je trouve que c'est dommage parce que des fois, sur certaines questions, c'est bien d'avoir la réaction. C'est pas la réponse en elle-même qui est intéressante, c'est la réaction des gens à cette question. Et ça dit parfois beaucoup plus que la réponse en elle-même qui va être un petit peu trop intellectualisée. Mais la réaction, elle est totalement spontanée. Et je trouve ça bien plus intéressant que « Oui, alors quand j'ai lu votre question, ça m'a bien fait rire. » Bah, c'est chiant. C'est chiant à écouter. Voilà. Tout simplement. Bon, allez. Marin, la bise.
Bonne soirée.
À bloc sur le vélo et à bonne soirée et à très bientôt.
Ciao. Alors, la minute de solitude, j'avais pensé parler nutrition parce que c'est très important sur le vélo, en particulier de la gastronomie suisse qui n'est pas assez connue. Je pense en particulier à la fondue, hein, moitié-moitié, forcément, pas quatre fromages, mais bien deux seulement, vacherin et puis gruyère. Gruyère à ne pas confondre avec de l'emmental, s'il vous plaît. Après, on a les ramequins en fromage. Alors ça, c'est vraiment parfait. Vous les prenez bien chauds quand tu sors du four. Je conseille ceux du marché de Lausanne, les samedis matins, les ramequins en fromage. Alors ça, c'est parfait avant d'aller faire un petit tour en vélo. Comme ça, vous roupillez sur le vélo, c'est parfait. Il y a le pâté vaudois. Bon, il faut prendre un petit peu de temps pour digérer avant d'aller rouler, une fois que vous avez mangé un pâté vaudois, parce que ça reste dans l'estomac quand même. C'est des saucisses au chou avec du poireau principalement et des pommes de terre, de la crème, voilà, très light comme vous imaginez. Mais bon, ça reconstitue après une bonne journée, ça c'est clair. Voilà, on a fait un petit peu les essentiels. N'hésitez pas à tester, ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est quand même, je pense que quand on fait du vélo sur des très très longues journées comme ça et qu'on se dépense, il faut pas regarder à ce qu'on mange. Et donc, je vous recommande vivement ces plats, en particulier ceux à base de fromage. Et bonne soirée.